Les Voix de service magazine de ce vendredi 21 avril 2017. Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue. À mes côtés, les collaboratrices Alexandra Blaison et Catherine Brunet. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous êtes en forme?
Absolument.
Oui, hein? C'est pas la pluie qui va nous démoraliser. On est faites fort. On est faites fortes. Alors, il y a Hélène Bédard qui est absente. On la salue si elle est à l'écoute, même si elle ne l'est pas. On la salue quand même. Elle sera de retour dans quelques temps. Alors, mesdames, vos sujets du jour.
Je vais continuer avec la lecture de nouveaux projets qui, on le sait maintenant aujourd'hui, est finaliste dans 9 catégories pour le prix du meilleur magazine canadien.
Bravo!
Oui, vraiment bravo à l'équipe de Nouveaux Projets. Et je vais lire quelques articles. On va passer technologie, histoire, on va voyager un peu en géographie.
On ne s'ennuiera pas, Catherine. Et vous, Alexandra?
Alors, je vais poursuivre la lecture du magazine Psychologie avec un article sur la bibliothérapie, la thérapie par les livres. Puis un article sur la sophrologie qui n'aide pas seulement à dormir. Et enfin, un article du magazine Protégez-vous sur ces vedettes qui nous veulent du bien. Ces vedettes qui nous donnent des conseils santé.
Bon, alors quelle vedette? Un exemple?
Jacinthe René?
Oui. Qui est de plus en plus, elle, du côté de la naturopathie.
Exactement.
Si je peux dire ça, je pense que c'est un mot qui existe.
Hein? Oui, naturopathie. Oui.
Alors, on vous écoutera.
D'accord, très bien.
Merci.
Merci.
La bibliothérapie. C'est nouveau, ça, Alexandra?
Non, visiblement, c'est pas nouveau. Ça date un petit peu, mais ça fait de plus en plus d'adeptes.
Mais peut-être que le mot n'existait pas, mais c'est peut-être. Sûr qu'une lecture, ça fait toujours du bien.
Peut-être.
En général. On vous écoute.
Donc, c'est un article du magazine Psychologie, du dossier Développement personnel, et qui s'intitule « Une petite séance de bibliothérapie ». Si les livres nous ouvrent le cœur et l'esprit, ils peuvent aussi nous apaiser ou nous guider. D'ailleurs, certains thérapeutes en recommandent déjà à leurs patients. Alors pourquoi ne pas associer plaisir et travail sur soi? Toute ma vie durant, mes livres ont été ma colonne vertébrale. Lorsque j'étais enfant, l'un d'eux m'a profondément marqué. Je devrais dire plutôt un héros, Rémi de Sans Famille, d'Hector Malo. Confie le neuropsychiatre Boris Cyrulnik à notre consoeur Christyla Pellé-Douel. Avant de citer un autre héros, David Copperfield a pour moi été ce modèle selon lequel, bien qu'ayant une enfance misérable et malheureuse, il n'était pas fatal de devenir un délinquant. Rémi, lui, transformait l'existence, il parcourait la France, l'Angleterre et faisait de multiples rencontres. Je me reconnaissais dans ce jeune garçon qui ignorait ses origines et qui était promené d'un endroit à l'autre. Ce récit m'a permis de me représenter ma propre histoire, de me sentir moins seule et de voir qu'il était possible de se sortir de situations difficiles. Ainsi, pour ce grand spécialiste de la résilience, la lecture n'est pas qu'un plaisir, elle aide à se construire et à changer sa perception du monde. Dans ses livres qui nous font du bien, Christyla Pellé-Douel, responsable des pages Livres à psychologie, a recueilli des témoignages d'écrivains, de chercheurs ou d'artistes. Ils racontent leur relation intime à la lecture et les enseignements qu'ils en tirent. Ainsi, l'œuvre d'André Breton a ouvert les portes du monde à Jean-Claude Carrière. La peste de Camus a permis à Axel Kahn de mettre la main sur un certain nombre d'idées et de concepts qui lui ont fait éprouver un sentiment de sérénité. Isabelle Sorinthe, elle, se plonge dans le journal d'Etty Hillesum quand elle a un passage à vide. Voyager, entendre l'écho de ses questions, trouver des réponses à ses interrogations, changer de temporalité, se frotter à l'altérité, rencontrer son double ou un modèle, approfondir sa réflexion, apaiser ses émotions, la lecture possède tellement de propriétés stimulantes, inspirantes, apaisantes, qu'elle est de plus en plus utilisée comme un outil thérapeutique, même si elle existe en tant que telle depuis presque un siècle. Christyla Pellé-Douel rappelle qu'elle est apparue vers 1916 aux États-Unis durant la Première Guerre mondiale. C'est une femme, une bibliothécaire, Sadie Peterson Delaney, qui a eu l'idée d'acheter des contes de fées, des romans et des livres d'histoire, et de mettre en place des groupes de thérapie appelés Heures du Conte avec des médecins. Et c'est un pasteur, Samuel Crothers, qui le premier a parlé de bibliothérapie en constatant l'effet bénéfique de la lecture sur des soldats en état de stress post-traumatique. Si cette thérapie reste encore marginale, on constate toutefois que de plus en plus de thérapeutes ont recours à des prescriptions littéraires. C'est le cas, entre autres, du psychiatre et psychothérapeute Christophe André, de Maurice Corcos, chef de service du département de la psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte jeune à l'Institut mutualiste de Montsouris, ou encore de Pierre-André Bonnet, un médecin généraliste qui a consacré sa thèse de doctorat à la bibliothérapie en médecine générale. Bertrand Robin, psychologue clinicien, formé à la psychanalyse et consultant en ressources humaines, a étudié et pratiqué la bibliothérapie pendant de nombreuses années. Pour lui, cet outil est loin d'être un accessoire mineur, parce que toute lecture est un acte d'interprétation, et que l'interprétation en soi est en soi, une thérapie, car elle met l'individu en position de sujet, en lui permettant de se décoller de son histoire et, par effet de projection, de trouver des ressources en lui. Il a constaté ses effets positifs sur des patients souffrant de troubles anxieux ou phobiques ou traversant des épisodes dépressifs. Au premier, il conseillait des ouvrages traitant des pathologies les concernant, comme ceux de Christophe André sur l'anxiété, pour que, comprenant mieux ce qui leur arrivait, ils deviennent plus actifs dans ce qu'ils traversaient. Au second, ceux qui vivaient des épisodes dépressifs, il proposait des romans qui les inscrivaient dans une temporalité équilibrée, comprenant un passé, un présent, un futur, et qui mettaient en scène des personnages et des situations auxquelles ils pouvaient s'identifier. Choisir l'ouvrage qui nous parle. Émilie Devienne est coach et auteure d'ouvrages de développement personnel. Sa passion pour les livres l'a conduite à développer une méthode qu'elle a intitulée le bibliocoaching. Littérature classique, grand public ou psy, peu importe, l'essentiel est de définir son objectif. Qu'est-ce que je cherche à résoudre ou à améliorer? D'identifier son besoin. Que me manque-t-il pour résoudre ce que j'ai à résoudre? Puis, selon sa jolie expression, de faire équipe avec son livre, c'est-à-dire de l'utiliser pour servir au mieux ses intérêts. Une fois défini son objectif et son besoin, chacun, en fonction de sa sensibilité et de sa culture, et en demandant conseil à son libraire, choisira l'ouvrage qui lui parle le mieux. Essais de psychologie, témoignages, biographie ou récits fictionnels, la prescription dépend de la sensibilité et de l'approche des bibliothérapeutes et des lecteurs. Pour certains, seuls les livres psy ou de développement personnel sont efficaces, car concrets et explicitement dédiés au mieux-être psychique. D'autres, en revanche, préfèrent la subjectivité et la complexité de la fiction. Christilla Pelé-Douel a choisi les deux avec une préférence, passion oblige, pour la littérature. Contre l'ennui, elle recommande Le Maître de Ballantrae de Robert Louis Stevenson, Pour comprendre le monde, vie et destin de Vassily Grossman, mais elle n'oublie pas Oliver Sacks et son migraine pour soigner les siennes.
Merci beaucoup pour toutes ces suggestions.
Voilà. Donc, c'était un article de Psychologie Magazine datant de février 2017.
Un livre comme un antidépresseur.
Exactement.
Catherine, vous allez lire un texte intitulé « Des pistes de solutions pour une technologie moins invasive ».
Exactement. C'est des propos résumés par Marie-Claude Élie Morin dans le magazine Nouveau Projet. Et elle résume comme si l'article « Alerte notification texto » dans l'économie de l'attention, notre temps et notre concentration sont constamment sollicités. Les designers des technologies savent très bien comment arnaquer nos impulsions au détriment de nos choix conscients. Et s'ils travaillaient pour nous et non contre nous. C'est ce que croit le militant Tristan Harris, fondateur du mouvement Time Well Spent. Le temps est une denrée précieuse dans la vie des gens, répète Tristan Harris dans les conférences qu'il prononce à travers le monde. L'ancien philosophe produit chez Google connaît tous les trucs pour favoriser notre dépendance aux appareils et aux applications et faire en sorte que nous y perdons pendant des heures. S'il a démissionné en 2016, c'est justement pour mettre son expertise au service d'une plus grande éthique en design des technologies. Voici quelques-unes de ses propositions pour mieux encadrer cette pratique et nous redonner le temps qui nous est débordé. Faire tomber le règne du tout ou rien. Présentement, les appareils et applications que nous utilisons nous donnent deux choix, être connectés ou non. Dans le premier cas, nous subissons inévitablement des interruptions constantes, textos, courriels, notifications des réseaux sociaux, flux de nouvelles, mises à jour, etc. Par contre, une fois débranchés, nous risquons de rater un message important. Il faudrait donc proposer un choix intermédiaire, soit un mode concentration ou ne pas déranger, facile à activer, qui informerait quiconque essaie de communiquer avec nous par messagerie texte, téléphone ou courriel que nous sommes indisponibles pour une durée donnée. Une option interruption d'urgence pourrait être offerte pour les situations exceptionnelles. Cessez de tout ramener à la volonté personnelle. Des études rapportent que l'individu moyen consulte son téléphone 150 fois par jour. La plupart des entreprises en technologie se défendent de nous distraire inutilement en arguant que nous ne sommes pas obligés de recourir à nos appareils. Ce serait à nous de savoir décrocher. Or, ces technologies ont été pensées spécifiquement pour solliciter les centres de récompense du cerveau et les réflexes de réciprocité sociale, et se sont transformées en machines à sous-miniature que nous tenons en permanence dans nos poches. Les passés nous avisent de nouveaux messages et de récentes notifications sont rouges, précisément parce que cette couleur suscite un sentiment d'urgence. Sans intervention de notre part, les vidéos en mode autoplay se succèdent, nous faisant perdre la notion du temps. Lorsqu'un message est marqué « lu », nous attendons une réponse, à laquelle nous nous sentirons d'ailleurs obligés de répondre immédiatement, ce qui nous déconcentre. Certaines fonctionnalités, tirer l'écran vers le bas pour rafraîchir les courriels, faire défiler les actualités sur Facebook ou Twitter, balayer les photos vers la gauche ou la droite sur Tinder, sont expressément conçues pour nous donner l'impression que nous jouons afin d'obtenir des récompenses. Un nouveau message, un retweet, un match. Celles-ci sont imprévisibles et donc hautement désirables. Bref, il faut reconnaître que ces technologies font un usage prédateur de nos vulnérabilités et que la volonté personnelle ne suffit pas. Créer des technologies balises de succès. On détermine généralement le succès d'une application au temps brut que les utilisateurs y passent. Pourquoi ne pas fixer d'autres barèmes? LinkedIn, par exemple, pourrait mesurer son efficacité en fonction du nombre d'offres d'emploi envoyées menant à une embauche réelle. Une application de rencontre pourrait recenser les relations humaines concrètes et positives générées chaque mois selon le feedback des utilisateurs. Certaines entreprises, comme Couchsurfing, ont déjà pavé la voie à l'introduction de nouveaux barèmes. Elles calculent le nombre d'heures d'agrément vécues par les personnes qui ont retenu leur service et soustraient le temps passé devant l'écran, considéré comme une perte. Démontrer une plus grande transparence. Si nous étions informés du temps réel que nous passons sur différentes applications, par heure, par jour ou par mois, peut-être serions-nous davantage portés à agir différemment ou à réclamer des améliorations. Pourquoi un compteur ne nous révélerait-il que nous avons déjà consacré plus de 4 heures dans une journée à parcourir Facebook ou Instagram? Ou plus de 45 minutes à lire des critiques de restaurants sur Yelp avant de faire enfin une réservation? Des aides-mémoires pourraient aussi nous signaler que nous avons consulté nos courriels 150 fois aujourd'hui et que nous en sommes à la 151e. Bref, ces données existent, mais seules les entreprises en font usage pour l'instant. Inversement, on pourrait intégrer une option à toutes les applications qui nous permettrait de décider à l'avance combien de temps nous souhaitons leur consacrer au quotidien et donc de choisir consciencieusement. Doter les designers en technologie d'un serment d'Hippocrate. C'est la première fois dans l'histoire qu'un si petit groupe d'individus, majoritairement des jeunes hommes blancs vivant en Californie et travaillant pour une poignée d'entreprises en technologie, à un impact aussi significatif sur la façon dont plus d'un milliard de personnes gèrent leur temps. Tout comme pour les architectes et les urbanistes dont les réalisations affectent la vie des citadins, l'élaboration de logiciels implique une responsabilité énorme de la part des designers. Comment parviennent-ils à distinguer ce qui est bon pour l'entreprise de ce qui est bon pour la société? Et comment peuvent-ils naviguer objectivement dans des situations de conflit d'intérêts? Comment peuvent-ils déceler et minimiser les conséquences sociales ou comportementales négatives engendrées par leurs décisions? Comment pourrait-on, finalement, responsabiliser davantage les designers quant à l'influence qu'ils ont sur nos choix? Il est urgent de développer un code d'éthique qui offrirait des réponses à ces questions. Réclamer des technologies qui travaillent pour nous. Dernier conseil. Les restaurants et prêt-à-manger comme McDonald's ont ajouté des salades à leur menu lorsque les consommateurs ont réclamé des choix plus santé. C'est aussi pour répondre aux demandes des clients que Walmart s'est mise à offrir des fruits et légumes biologiques. De la même façon, les entreprises en technologie ont ajouté des dispositifs de sécurité quand les utilisateurs ont exigé la protection de leurs données personnelles. Mais notre attention et notre temps méritent d'être protégés, au même titre que notre santé et notre intimité. L'expérience actuelle ne sert pas nos intérêts et nous dérobe de la plus grande des libertés, celle de notre esprit. Réclamons que nos téléphones intelligents et nos écrans de notification servent d'abord nos valeurs et non nos impulsions.
Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
Tiré de l'album Les Sentinelles dorment, André Alizé nous chantait Le temps de l'amour.
Alexandra, vous allez lire un texte qui concerne la sophrologie.
C'est ça, la sophrologie. On dit que la sophrologie, c'est pour mieux dormir. C'est un peu comme le yoga, sans les acrobaties. Un peu comme la méditation, sans avoir de fourmis, avec le droit de s'endormir sur le tapis. Bref, quand t'as des insomnies, fais de la sophrologie. Quoi ? Comment ? Ça marche aussi pour d'autres soucis ? Eh oui, méthode anti-stress par excellence, la sophro, pour les intimes, travaille au relâchement physique et mental, résume Catherine Aliota, auteure de Pratiquer la sophrologie au quotidien. Rien de mieux pour bien dormir, c'est sûr. Mais pas seulement, car cette technique aborde de nombreuses autres difficultés. Troubles de la coordination motrice chez les plus petits, de l'équilibre chez les plus vieux, décrochage scolaire, problèmes d'image de soi chez les ados, acouphènes, troubles du désir, etc. Elle peut aussi venir en complément d'un accompagnement psychologique pour les phobies, TOC, stress post-traumatique, et ou d'un traitement médical en cas de pathologie lourde, pour mieux supporter la douleur, les chutes de morale ou les effets secondaires. Si la sophrologie s'appuie sur la relaxation, l'attention au corps, la respiration, elle joue aussi sur la concentration, la suggestion et autres techniques qui murmurent à l'oreille de notre esprit. Le tout dans un état de conscience sophroliminal, entre la veille et le sommeil, pour mieux intégrer les modifications proposées. L'objectif est triple. Le premier est d'apprendre des astuces pour aller vite mieux et ne plus être assailli par nos angoisses, nos souffrances physiques ou psychiques, explique Catherine Aliota. C'est ensuite une hygiène de vie que l'on s'approprie au quotidien en s'entraînant à faire des exercices comme on fait ses gammes pour savoir ne plus passer en zone rouge. C'est enfin une préparation à d'éventuelles situations stressantes à venir. Examens, compétitions sportives, interventions médicales, ajoute-t-elle. Un père venu consulter pour apaiser sa relation avec ses enfants pourra apprendre une des 27 relaxations dynamiques, comme celle où l'on imagine enlacer un coussin de calme afin de laisser diffuser dans son corps toute la détente qu'il procure. Parfait pour intégrer des réflexes de zénitude. Puis, guidé par la voix du sophrologue, il pourra visualiser ce que serait un dîner en famille apaisé pour intégrer petit à petit, dans son corps et dans son esprit, une situation positive. Le tout en 8 à 12 séances, à condition de s'entraîner sans trop roupiller. Le saviez-vous ? La sophrologie se pratique aussi en groupe, mais également en intégrant un cours hebdomadaire avec un thème différent chaque semaine pour se sentir bien dans ses chaussettes toute l'année. Ou encore en entreprise, lors d'interventions pour améliorer la qualité de vie au travail, aider les salariés à ne pas subir trop de pression, à développer leur confiance en eux, leurs ressources, ou enfin à les accompagner lors d'un changement, rachat, déménagement.
Merci. C'est important de se sentir bien dans ses chaussettes.
Exactement. Je ne sais pas si ça se dit au Québec, se sentir bien.
Oui, ça se dit. En tout cas, ça se comprend très bien. Et puis, Alexandra, vous avez pris ce texte dans quel magazine?
Dans le magazine Psychologie de février 2017.
Merci. L'insomnie, c'est le cauchemar de bien des gens.
Absolument. Assez le cauchemar des gens pour que Nouveau Projet aussi en écrive un article. Mmh. En fait, c'est dans leur série Collage qu'ils nous offrent à chaque numéro. Nouveau Projet fait le tri de ce qui se publie et se diffuse afin de vous proposer un regard pluriel sur le monde. Donc, c'est des publications qui ont paru dans d'autres journaux, d'autres magazines, qui sont ensuite traduits par quelqu'un d'ici. Dans ce cas-ci, c'est William S. Messier qui nous offre la traduction de ces articles. Et le premier... Et sur l'insomnie. L'invention de la nuit de 8 heures. C'est un article paru le 29 septembre 2016 dans Books, un magazine français qui explore des sujets d'intérêt général à partir des livres publiés dans le monde entier. Il est 3 heures du matin et vous fixez le réveil, les yeux grands ouverts, l'esprit alerte. Non, vous n'êtes pas insomniaque. Rien de plus normal, même. Car la nuit de 8 heures d'une traite n'a rien d'obligatoire, ni même de naturel. Avant la fin du 17e siècle, elle n'existait tout simplement pas, assure l'historien Roger Eckers. Dans « At Days Close, Night in Times Past », il étudie les habitudes de sommeil de nos ancêtres de l'ère prémoderne, du 15e siècle au 1750. Journaux intimes, comptes rendus d'audience, romans ou ouvrages médicaux mentionnent tous la pratique d'une nuit en deux temps. Un premier repos avant le dîner, puis une à deux heures d'éveil vers minuit et enfin un nouveau temps de sommeil avant le matin. Ils ne font pas que mentionner ce rythme, ils l'évoquent comme s'ils étaient courants. Cette nuit en deux temps semble avoir été la norme pendant de nombreux siècles et partout dans le monde. Selon Ehrlich, elle correspondrait à un modèle de sommeil naturel. Les heures de veille au milieu de la nuit servent de temps de repos pour évacuer le stress. Les premiers diagnostics d'insomnie ne sont apparus qu'à la fin du 19e siècle, après l'adoption généralisée de la nuit complète. Que faisaient nos ancêtres pendant leurs heures éveillées du milieu de la nuit? Ils priaient, mangeaient, s'aimaient, lisaient, discutaient, se reposaient. De nombreux livres de prières du 15e siècle proposent des formes spécialisées de dévotion pour ce moment précis, souligne Elrich. Un médecin français du 16e siècle assure, lui, que c'est le meilleur moment pour concevoir. Puis, le recours généralisé à l'éclairage dans les rues et les foyers a transformé les habitudes nocturnes. Dans les milieux urbains aisés d'Europe du Nord, on s'amuse à la lumière des bougies et des réverbères. Les références au premier et au deuxième sommeil commencent à disparaître à la fin du 17e siècle. 200 ans plus tard, au début des années 1900, plus personne ne se souvient de ce rythme. Il nous offre en conclusion une petite chronologie qui s'appelle « Le corps à l'épreuve du temps ». Quelques chiffres tirés du graphique de « Rise and Fall of Flesh » publié dans « L'Aphase Quarterly », un magazine américain qui observe ces sujets par la lorgnette de l'histoire. C'est en fait une petite chronologie des âges par rapport aux époques, donc ça va comme suit. 7 ans dans l'Antiquité, l'âge auquel les Spartiates commençaient à s'entraîner militairement. À 20 ans, l'âge auquel la production de collagène qui donne à la peau son aspect jeune est à son maximum. 43 ans, l'âge moyen auquel les auteurs de prose écrivent leurs œuvres la plus citées. 50 ans, l'âge auquel 50% des gens auraient 50% de cheveux gris. 60 ans, début de la décennie marquant le sommet de la productivité chez les historiens et les philosophes. Assez tard quand même, 60 ans. Oui. Et à 100 ans, l'âge de Don Pellman, quand, en 2015, il a couru le 100 mètres en 26,99 secondes, effectué un saut en longueur de 1,78 mètres et un saut en hauteur de 90 cm, lancé un disque à 14,86 mètres et un poids à 16,6 mètres. Tous les records mondiaux pour sa catégorie d'âge.
Je sais pas comment il avait dormi, lui, en petite sieste ou un 8 heures en ligne.
Mais j'espère qu'il avait dormi assez parce que c'est assez exceptionnel de faire oui. tout ça à 100 ans.
Impressionnant, impressionnant. Merci beaucoup, Catherine. Alors, l'émission Les Voix de service magazine se poursuit après la pause et aussi la chanson. Il y aura une chanson, Mathieu? Mathieu qui me fait signe que oui. Et autour de la table, je vous rappelle que je suis bien accompagnée. Alexandra Blaison et Catherine Brunet, c'est Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'écouter Canal M en ce vendredi 21 avril 2017.
Que ce soit, tant que je gueule, je reste. c'est une auto-exclusion. Elle me mène dans des coins à reculons. Je vais les changer, tout comme mon téléphone. Mon doigt est brisé, jamais il ne sonne. Je fais tout.
Damien Robitaille, qui nous présentait son dernier album hier au Club Soda, nous chantait « Homme autonome » tiré de l'album « Homme autonome ».
Alexandra, vous nous parlez de vedettes qui nous veulent du bien. Oui. Qui sont-elles, ces vedettes?
Alors, ce sont ces vedettes qui sont très à la mode en ce moment. Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow,
oui.
Jacinthe René. Elles sont nombreuses à faire l'éloge du bien-être et d'une saine alimentation, mais leurs conseils ne sont pas tous inoffensifs. Les célébrités adeptes du bien-être utilisent leur expérience personnelle pour vanter les vertus d'une alimentation sans gluten, des cures de détox ou des menus sans sucre, sans produits laitiers ou sans viande. Dès l'intro de son livre, Gwyneth Paltrow explique par exemple qu'elle a complètement modifié sa façon de manger quand son médecin lui a diagnostiqué de l'anémie, une carence en vitamine D, un foie congestionné et un dérèglement hormonal. De son côté, Cameron Diaz dévoile dans son body book comment elle a compris que ses mauvaises habitudes alimentaires influaient sur ses problèmes de peau et de digestion, ainsi que sur son niveau d'énergie. Leur mantra ? Toutes deux prêchent l'importance de prendre soin de son corps et donnent des conseils pour le faire sur le ton convaincu et enthousiaste des meilleurs motivateurs. Le problème, c'est que tous ces conseils ne sont pas étayés par la science et que parfois, ils frôlent la désinformation. D'ailleurs, très peu de célébrités s'embarrassent de notes bibliographiques ou de références à des études, même si la plupart collaborent, de près ou de loin, avec des professionnels de la santé ou de la nutrition. Chaque livre est un mélange de bons et de moins bons conseils et d'idées carrément farfelues dans des proportions qui varient. Mais dans l'ensemble, je ne vois rien de dangereux. L'essentiel du message est bon. Manger mieux, bouger, mais il ne faut pas tout appliquer à la lettre, souligne le pharmacien Olivier Bernard, auteur du Pharmachien, un blog qui vise à déboulonner les mythes scientifiques et médicaux. Le mode de vie de nos gourous de la saine alimentation est souvent très restrictif et bourré d'interdits alimentaires. Selon les experts rencontrés pour ce dossier, il est presque illusoire de croire qu'on peut l'adopter à long terme. Et il y a là un danger, la nutritionniste et fondatrice de la clinique MU-ULA, Guylaine Guévremont. Si les objectifs sont inaccessibles, ça devient stressant et culpabilisant de ne pas pouvoir les atteindre. Pour les personnes qui multiplient les régimes depuis des années, c'est un échec de plus qui peut avoir de graves conséquences sur leur morale ou sur leur rapport avec la nourriture, ce qui peut mener à des troubles de l'alimentation. Valables ou pas les conseils de ces stars du bien-être ? Nous faisons la lumière sur ce que vous proposent ces auteurs à succès. Que pensent les spécialistes de la santé que nous avons rencontrés de ces livres qui publient les vedettes québécoises et internationales ? Tous s'entendent pour dire que le message de saines habitudes de vie qu'ils véhiculent est valable. Manger sainement, bouger, prendre soin des autres, garder du temps pour soi, on ne peut pas être contre, lance la nutritionniste Nathalie Jobin, directrice scientifique d'Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Le diable se cache plutôt dans les méthodes proposées pour atteindre ses objectifs et dans certaines affirmations à l'emporte-pièce sur la santé et la nutrition. De faux ennemis ? Le gluten semble être la bête noire des vedettes qui l'ont presque toutes éliminée du modèle alimentaire qu'elles proposent dans leurs livres. Pourtant, le gluten n'est pas nocif, sauf pour le 1% de la population atteinte de la maladie cœliaque et pour certaines personnes qui auraient des difficultés à le digérer, souligne Nathalie Jobin. Même chose pour le lait et les produits laitiers qui sont souvent bannis par nos vedettes. Il faut éviter de mettre de côté certains aliments. Ça ne fonctionne pas à long terme. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable de suivre ces diètes à la lettre. Dans ces livres, vous pouvez cependant piger des recettes qui vous feront découvrir, par exemple, des grains que vous ne connaissez pas. Pour la nouveauté, pas parce que ces grains sont sans gluten, poursuit la nutritionniste Annie Ferland, fondatrice du site Science et Fourchette, qui démystifie la science qui influence notre alimentation. En finir avec la détox. La détox se retrouve dans plusieurs livres, dont ceux de Gwyneth Paltrow, Jacinthe René et Kate Hudson. Chantal Lacroix est une des rares parmi les vedettes que nous avons ciblées pour cet article qui échappe à cette vague prônant le nettoyage du corps de ses éléments toxiques. La démarche n'a aucun fondement scientifique. Le corps possède les mécanismes qu'il faut pour se défendre et éliminer les déchets. Et si votre système de nettoyage, reins, foie et intestin, fonctionne mal, ce n'est pas une cure de jus vert ou hypocalorique qui va tout arranger. Seul votre médecin peut découvrir la source de ce problème, soulignent les nutritionnistes rencontrés, qui déplorent aussi l'utilisation de l'expression « aliment toxique » dans certains de ses livres. Sur son site web, Gwyneth Paltrow propose une détox de 21 jours. Le directeur de recherche du Health Law and Science Policy Group de l'Université de l'Alberta, Timothy Caulfield, l'a essayé pour les besoins de son livre. Résultat, il a perdu quelques kilos, mais aussi les 425 $ qui lui ont coûté les ingrédients nécessaires aux recettes. Analyse de celles à l'appui, il peut affirmer que sa flore intestinale n'a pas bougé, contrairement à ce que prétend la star. Des affirmations incomplètes. Certaines affirmations de vedettes surprennent ou ne sont pas du tout simplement étayées par la science. Des exemples ? Pour accroître le travail de votre système digestif, vous devriez consommer séparément les fruits frais, les féculents, grains entiers, patates douces, légumineuses, et les protéines, noix, légumineuses, viande, etc., nous dit Jacinthe René. Et comme Kate Hudson, elle prône une alimentation alcaline, soulignant qu'un pH corporel acide favorise l'apparition de maux et de cancers. S'il est vrai que le contrôle du pH corporel est essentiel, l'alimentation a peu y voir, indique Olivier Bernard. Ce sont plutôt vos reins et vos poumons qui se chargent de maintenir l'équilibre. Cameron Diaz soutient quant à elle que le sucre, le gras et le sel sont comme une drogue pour le cerveau et créent une dépendance. La théorie veut que plus on lui en donne, plus il en veut, mais rien ne le prouve. En fait, c'est bien souvent la culpabilité éprouvée à consommer des aliments riches en sucre, gras ou sel, qui provoque l'envie d'en manger davantage, explique Guylaine Guèvremont. L'oil pulling, ou bain de bouche à l'huile, proposé par Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz et Jacinthe René pour blanchir les dents et éliminer les bactéries de la bouche, n'a pas plus d'appui scientifique. Rien ne prouve que l'huile peut agir comme un nettoyant. Pratiqué à jeun, au seau du lit, l'oil pulling consiste à se rincer la bouche avec de l'huile végétale de 15 à 20 minutes quotidiennement. Et oui, vous avez bien lu. Olivier Bernard n'y voit aucun bénéfice avéré. Mais outre le mauvais goût qu'il laisse dans la bouche, le traitement ne présente pas de danger selon lui. Des conseils dangereux et des poursuites. Certains conseils trouvés sur les sites web des vedettes représentent cependant des risques pour la santé. Gwyneth Paltrow, par exemple, sur son site goop.com, a vanté les bienfaits d'un traitement vaginal à la vapeur et aux plantes pour nettoyer, stimuler la production d'hormones, maintenir la santé utérine, réguler les menstruations et améliorer la circulation. Un conseil qui a fait bondir de nombreux médecins, ici et aux États-Unis. Les douches vaginales sont déconseillées parce qu'elles évacuent les bactéries naturellement présentes et risquent d'entraîner des irritations et des vaginites. En 2015, Jacinthe René soutenait sur son site jmagazine.ca, que l'utilisation de crème solaire sur une période de 30 ans augmentait le risque de développer un cancer de la peau. Encore là, les réactions ont été vives chez les médecins et les oncologues, qui ont vite fait de démentir l'information et de rappeler l'importance de se protéger des rayons du soleil. Nous avons tenté de joindre un professionnel de la santé, qui travaille avec Jacinthe René, mais il n'a pas donné suite à notre demande. Jessica Alba s'est quant à elle frottée à des internautes mécontents qui avaient utilisé la protection solaire FPS 30 portant le nom de son entreprise, The Honest Company, et que, l'actrice vend sur son site, sur son propre site. Ceux-ci ont rapporté à l'été 2015 avoir été brûlés par le soleil après s'être servi du produit en question. Au début de l'année 2016, la compagnie a aussi été poursuivie pour avoir utilisé du lauryl sulfate dans ses savons à vaisselle, son savon à linge et son nettoyant multisurface, bien que ceci soit présenté comme étant exempt de ce produit responsable d'irritations cutanées et allergiques. Mauvaise nouvelle pour une entreprise que l'actrice a lancée parce qu'elle souhaitait un monde plus honnête.
Ouais, faut en prendre et en laisser, hein. Exactement. Et donc, être très critique, c'est vraiment un article à conserver.
Oui, donc c'est un article qui vient du magazine Protégez-vous.
Merci Alexandra et merci Protégez-vous. Catherine, vous nous amenez complètement ailleurs et toujours avec un texte, c'est-à-dire toujours dans le nouveau projet.
Absolument. On s'en va dans un sujet d'histoire, histoire des mouvements sociaux. C'est une chronique que nous offre Marc-André Cyr, qui est lui-même historien des mouvements sociaux, journaliste et chroniqueur à plusieurs magazines et revues. Le titre de son article est « La petite Russie d'Abitibi ». La collectivité avant l'individu, c'était le mode de fonctionnement prôné par la communauté de Guyenne, avant que les impératifs du capitalisme ne la rattrapent. Retour sur l'expérience originale, certains diront utopique, de cette colonie abitibienne. Le 17 août 1946, à 50 km au nord-ouest d'Amos, en Abitibi, des membres de la jeunesse agricole chrétienne plantent une croix pour signifier la prise de possession du canton de Guyenne. La colonisation n'est pas un phénomène nouveau. Au Canada comme aux États-Unis, elle prend une ampleur considérable après la crise de 1929. À ce moment précis, les pionniers de Guyenne ne savent certainement pas qu'ils s'apprêtent à mettre en place l'une des expériences les plus singulières de l'histoire du Québec. Grâce à leurs efforts, une colonie radicalement démocratique et égalitaire va bientôt voir le jour. Fondé dès 1947, le syndicat coopératif de Guyenne rassemble les 70 hommes du village. Sans jamais être totalement indépendant du gouvernement ni de l'Église, cette institution devient rapidement incontournable. En ce pays où tout est à bâtir, c'est elle qui répartit les terres, encadre le travail et dicte la loi de la collectivité. Une assemblée générale a lieu une fois par mois, regroupant les membres du syndicat dans le sous-sol de l'Église. On y élit l'équipe de direction, à qui on distribue les mandats à exécuter, et on décide des orientations globales de la communauté. Tous les sujets y passent, défrichement des terres, choix des maisons, techniques de construction. De petites assemblées formées de 6 ou 7 personnes, selon leur lieu de résidence, se rencontrent quant à elles au moins une fois par semaine afin de discuter des différents enjeux, dont le travail et les relations de voisinage. Ce fonctionnement demande un certain dévouement, d'autant plus que les réunions se terminent parfois tard la nuit. On avait une assemblée de direction réunissant l'exécutif élu par semaine, raconte un membre, puis quand c'était urgent, on en avait 2. Puis ça, c'était en plus de notre petite assemblée du groupe qu'on faisait toutes les semaines. Un autre ajoute, moi j'ai eu des fois 7 assemblées par semaine. Dans la colonie qui serait bientôt rebaptisée « Petite Russie », la collectivité passe avant l'individu. Plusieurs règlements témoignent. Les équipes d'ouvriers décident de la répartition des salaires. Chacun doit consacrer 50% de ses revenus au paiement de sa maison. L'entreprise privée est interdite. Il faut une permission pour travailler hors de la colonie. Les gains sont plafonnés afin d'éviter les inégalités. On interdit la consommation d'alcool, ce qui fonctionnera partiellement. On interdit la profération de jurons, ce qui ne fonctionnera pas du tout. Et etc. La séparation des tâches entre les hommes et les femmes choquerait nombre d'observateurs contemporains. Les assemblées, c'était réservé aux hommes, affirme une pionnière, puis les hommes étaient bien renfermés à part de ça. Ils ne comptaient pas ce qui s'y passait. Une autre se plaint d'avoir eu à se déplacer dans une chambre plus loin lorsque les réunions se tenaient dans la cuisine. Les femmes s'organiseront malgré tout entre elles, mais au sein d'institutions religieuses, sans grand pouvoir politique. 10 ans après l'établissement du village, les membres du syndicat occupent chacun une maison d'une qualité faisant l'envie des colonies voisines. Guyenne compte aussi une église, un bureau de poste, une caisse populaire et un magasin général sous la gouverne directe du syndicat. Le collectivisme direct s'étend désormais aux différents cercles d'associés, les éleveurs et les agriculteurs, ainsi qu'au sport et aux loisirs. Même l'école fonctionne partiellement sous l'autorité du syndicat coopératif qui détermine le salaire des institutrices. Les succès de la colonie attirent les jeunes venus des villes. En 1966, Guyenne compte plus de 50 habitants. Mais les impératifs du capitalisme n'épargneront personne. En 1967, la direction du syndicat passe outre les décisions de l'Assemblée générale et crée de toutes pièces une entreprise forestière, une première en 20 ans. La même année, l'État québécois donne des droits de coupe à différentes compagnies sur le territoire de la collectivité. Les façons de faire originales de la colonie s'effritent progressivement. À partir de 1967 toujours, l'État exige une rétrocession des lots coloniaux afin de les administrer directement. Le temps n'est plus aux collectivités autonomes, mais au grand développement favorisant les croissances économiques nationales. Tant bien que mal, Guyenne tente de résister. Dans une pétition de 1966-68, on demande que les droits d'une petite communauté passent avant ceux des gros propriétaires. Trop conservatrice pour être moderne et trop communiste pour l'État capitaliste, la petite Russie sera écrasée par le rouleau compresseur du progrès. Coincée entre la grande noirceur et la révolution tranquille, elle est tombée dans les interstices de la grande histoire nationale. C'est dans la seule mémoire de ceux qui l'ont mise en place qu'elle continue d'exister à l'ombre des mouvements et des héros statufiés. Si vous voulez en savoir plus, il nous suggère le livre « L'expérience de Guyenne » par Robert Laplante. Et toutes les citations de cet article ont été parues de ce livre. Donc, c'est des propos recueillis par Marc-André Cyr sur cette histoire un peu particulière en Abitibi, qui est une région très, très économique aujourd'hui qu'on connaît pour toutes ces industries minières et forestières.
Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté les tomates des serres de Guyenne.
Non, personnellement, non.
Et je me demande si ça existe toujours parce que je les ai découvertes à l'époque où j'habitais l'Abitibi et elles étaient très bonnes. Salut aux gens de Guyenne. Merci, Catherine. Délices de la rémanence. Rémanence, c'est un mot que je n'ai jamais entendu, Alexandra.
Moi non plus, avant cet article, non? Très honnêtement.
Bon, je me sens moins seule.
Psychologie donne carte blanche à Christophe André, qui est psychiatre et psychothérapeute, et qui nous parle de lui et de sa vie quotidienne pour mieux éclairer la nôtre. Son dernier ouvrage paru, 3 minutes à méditer. Et c'est lui qui va nous parler des délices de la rémanence. J'attends un copain pour un déjeuner. Je suis en avance et lui en retard. Il fait beau et je ne veux pas m'enfermer tout seul dans le restaurant. Je préfère m'asseoir sur un banc et regarder la vie dans la rue. J'ai l'impression que plus grand monde ne fait ça, à part les personnes âgées. Les autres plongent directement le nez dans leur smartphone. Moi, ça m'agace, la dépendance à ces engins. Je trouve que la vraie vie est plus intéressante. On s'y frotte à un réel qui nous stimule et nous gratte, au lieu d'évoluer dans un virtuel qui nous convient et nous flatte. Ou alors c'est que je suis désormais une personne âgée, qui aime s'asseoir et regarder. Tiens, par exemple, Je vois de l'autre côté de la rue une dame et un monsieur qui discutent poliment mais joyeusement. En observant la manière dont ils se parlent, à quelle distance ils se tiennent l'un de l'autre, j'en déduis qu'ils se connaissent déjà un peu, mais qu'ils ne sont pas intimes. Ça n'empêche pas la conversation d'être animée. Ils rient, sourient. Puis ils se saluent et se séparent. Le monsieur s'éloigne sur le trottoir d'en face. La dame s'apprête à traverser vers moi. Je peux voir son visage. Elle a un grand sourire aux lèvres, le même que celui qu'elle avait en discutant. Elle est seule, mais elle sourit encore. Elle sourit d'un sourire habité, pas un sourire automatique. Un sourire qui n'est destiné à personne, qui vient de l'intérieur et qui est lié, j'en jurerais, au bref échange qu'elle vient d'avoir. Ça lui a fait du bien de parler, même de petites choses de rien du tout, comme celles dont on parle quand on croise dans la rue quelqu'un qu'on connaît. Les études montrent que sourire sincèrement élève nos émotions positives, nous donne une petite bouffée de bien-être. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à la dame. La conversation lui a fait plaisir. Mais elle a eu sur elle un effet retard pendant au moins quelques minutes, puisqu'elle a continué à sourire toute seule. C'est ce qu'on appelle la rémanence, cette persistance d'un phénomène après la disparition de sa cause. Rémanence du sourire et du plaisir lié à l'échange qu'il a provoqué. Mais il n'y a pas que la rémanence qui caractérise les sourires sincères, il y a aussi la contagion. Voilà que ça me fait sourire de la voir sourire, moi qui n'ai pas participé à la conversation. Ou bien est-ce le beau ciel bleu qui me met en joie? Ou le fait de me sentir en vie, là, sur ce banc, réchauffé par un soleil d'hiver faible mais délicieux? Je renonce à chercher. J'espère juste que mon sourire et le plaisir d'avoir assisté à cette petite scène vont eux aussi être rémanents. Et je me dis que j'aimerais que ma vie s'écoule ainsi. D'expérience de sourire en rémanence de sourire jusqu'au sourire suivant.
Merci beaucoup, ça nous fait sourire.
Oui, hein?
Catherine, les étudiants ne font pas plus d'erreurs de français qu'autrefois, les étudiants d'aujourd'hui. Là.
Absolument. C'est un article qui va certainement faire plaisir aux milléniaux ou même aux professeurs de français du secondaire ou du cégep qui tentent de faire passer la langue française à leurs étudiants. Détrompez-vous, ils ne font pas plus d'erreurs qu'autrefois. C'est un extrait d'un article publié le 19 octobre 2016 dans le JSTOR Daily. Le site d'actualité de la Bibliothèque de revues et journaux académiques.
Les sceptiques seront confondus.
Et voilà. Les étudiants universitaires écrivent plus que jamais et remettent des travaux plus longs que jamais. En 2006, la dissertation moyenne faisait plus du double de celle de 1986, qui était elle-même beaucoup plus longue que celle de n'importe quelle période du siècle précédent. En 1917, un travail d'étudiant comptait en moyenne 162 mots. En 1930, cette moyenne était de 231 mots. On en atteint les 422 mots en 1986. Puis, 20 ans plus tard, le travail moyen en comportait 1038. Pourquoi les étudiants universitaires du 21e siècle écrivent-ils autant? Les ordinateurs leur permettent de rédiger plus rapidement. À ce titre, d'autres avancées technologiques en rapport avec l'écriture expliquent peut-être la différence entre 1917, 1930 et 1986. Le stylo à billes, puis les dactylos mécaniques et électroniques ont certainement permis d'écrire plus vite qu'avec une plume et un encrier. L'Internet ne nuit pas non plus. Des recherches démontrent que le fait d'écrire sur un ordinateur connecté à Internet pousse les étudiants du primaire et du secondaire à vérifier plus souvent leur contenu en ligne. Ils écrivent, révisent et publient davantage. Leur écriture fait l'objet de plus amples commentaires, elle connaît une plus grande variété de formes et de genres, et elle est de meilleure qualité.
Eh bien, on ne parle pas de l'écriture, des envois qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, les Twitter, etc. Parce que souvent, on n'écrit pas nécessairement, on écrit plus au son.
Absolument.
Oui.
Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « La langue affranchie » qui vient de sortir, qui est exactement sur ça, sur la langue française, comment on peut la varier, puis comment c'est permis, qu'on ne doit pas s'empêcher de faire varier notre langue de français sans faire de fautes nécessairement.
Ça pourrait être intéressant comme lecture à faire.
Absolument. Si l'article vous a intéressé, pourquoi pas continuer votre lecture.
Oui. Alors, un grand merci à Catherine Brunet et aussi à Alexandra Blaison. C'est tout pour aujourd'hui. Ça a passé vite, me semble.
Ça passe vite
en bonne compagnie. Oui, c'est ça. Alors, je vous souhaite une très belle journée, mesdames. Bon week-end aussi à vous. On se retrouve vendredi, j'espère bien.
À vendredi.
Et puis, quant à moi, je vous retrouve après la pause avec les voix de service quotidiennes.